Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
Comment ça va ?
Bien, bien.
Ah, content de te retrouver, en particulier autour de l'Esprit Saint. On continue sur les chiffres, les numéros 694 et suivants du catéchisme de l'Église catholique. Il est question des symboles de l'Esprit Saint. Il y a plein de symboles bien connus de l'Esprit Saint, l'eau, le feu, la colombe, l'huile. Pourquoi Dieu a-t-il besoin de, ou pourquoi a-t-on besoin de représenter l'Esprit Saint comme cela ?
Alors, l'Esprit Saint, on se souvient, est invisible. On ne sait d'où il vient ni où il va, comme dit Jésus à Nicodème dans le chapitre 3 de Saint Jean. Il est invisible. Et pour que nous puissions, avec nos pauvres intelligences, saisir sa présence, il faut comme des symboles, mais des symboles qui ne sont pas des incarnations. Il n'y a que Jésus qui s'est incarné, deuxième personne de la Trinité, avec un corps assumé, et qui continue dans la gloire à être assumé. Jésus ne lâche pas son corps au moment où il est ainsi monté au ciel. Alors que l'Esprit Saint doit faire en sorte que nous saisissions au bon moment, selon notre mentalité, qu'il passe, qu'il agit. Et donc ce sont toujours des symboles très actifs. Par exemple, l'eau qui coule, qui ruisselle sur quelqu'un, on voit bien, il y a une action. D'ailleurs, on ne peut baptiser que dans une eau ruisselante, on ne peut pas baptiser dans une eau stagne, dit les rubriques de nos livres liturgiques. Et une eau pure, ça a beaucoup de symboles, le fait de la pureté du Saint-Esprit. L'onction, pareil, c'est une action d'huile qui se répand sur le plus haut de la tête, qui descend, comme dit le psaume, sur la tunique et sur la barbe d'Aaron, pour se souvenir. Et donc il y a quelque chose de ruisselant, et c'est encore une action prégnante. Ce n'est pas seulement une action qui lave, là c'est une action prégnante. Le feu, le feu se propage, le feu c'est une étincelle qui aboutit dans un fagot et puis qui s'enflamme, donc on voit très bien les flammes qui jaillissent, il y a quelque chose d'un jaillissement et qui montre bien le Saint-Esprit en acte. Et puis il y a la nuée et la lumière qui sont des moments évidemment étincelants où le peuple de Dieu avance dans le désert, la nuit qui est précédé par une colonne de lumière et la journée par une nuée lumineuse qui avance et qui précède le peuple juif pour lui permettre de faire ses différentes stations dans le désert, puisque le peuple juif va rester 40 ans au désert et cette nuée et cette lumière ont été toujours données par Dieu d'une manière extrêmement généreuse. Il y a le sceau. Le sceau, alors, est un symbole proche de l'onction, nous dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 698. C'est pour montrer que les dons de Dieu sont sans repentance. Quand Dieu donne, il ne se reprend pas. Et l'aspect du sceau marque une prégnance, quelque chose qui s'est vraiment définitivement, incrusté dans l'âme. Et saint Augustin a beaucoup développé cette idée du sceau comme pour les esclaves ou les soldats qui étaient marqués du sceau, par exemple, de la légion à laquelle ils appartenaient. Il fallait un sceau au fer rouge pour dire qu'un tel était de telle légion. Et nous devenons donc esclaves du Christ, selon l'expression de saint Paul, « doulos tu Christou », esclave du Christ, c'est-à-dire lui appartenant corps et âme par le baptême, donc le sceau, imprime un effet indélébile, c'est l'onction du Saint-Esprit. Et puis, il y a la main avec la forme de l'imposition des mains. Nous savons que lorsque nous donnons un sacrement, nous imposons la main ou les mains. La main, c'est dans certaines occasions, quand nous ne sommes que collaborateurs, par exemple, de l'évêque, le prêtre ne lève qu'une seule main par rapport à l'évêque qui impose les deux mains. Il y a quelque chose de plus majestueux quand il y a les deux mains. Et certains sacrements demandent donc l'imposition de deux mains. L'onction d'huile, évidemment, se fait avec une seule main, puisque le doigt s'enfonce dans le petit pot d'huile de Saint-Crème, par exemple, pour les confirmations. Et on impose la main sur l'impétrant et on fait le signe sur le front en disant « Reçois le sceau du Saint-Esprit ». Et donc, il y a évidemment imposition d'une main pour bien caractériser ce sceau du Saint-Esprit. Donc, l'imposition des mains est importante. Jésus guérissait les malades en imposant les mains, nous dit Saint Marc au chapitre 6 et au chapitre 8 de son évangile. Ainsi, l'imposition des mains appartient aux articles fondamentaux, comme le dira l'Épître aux Hébreux. Il y a le doigt de Dieu, et on songe à ces passages de Saint-Luc où on dit « c'est par le doigt de Dieu que Jésus expulse les démons ». La loi de Dieu, selon la tradition, était écrite par le doigt de Dieu. Donc la loi elle-même est quelque chose qui est donné par le Saint-Esprit. Et puis il y a un passage important, c'est la colombe du Saint-Esprit au moment du baptême de Jésus. Il y a justement une colombe qui est au-dessus de Jésus. Quand Jésus mouille dans l'eau pour montrer que son humanité est vraie, que ce n'est pas un docétisme, ce n'est pas une apparence, Jésus mouille vraiment dans l'eau comme un corps qui mouille dans l'eau. Au même moment, une colombe jaillit dans le ciel et puis du haut du ciel, une voix se fait retentir, c'est la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma complaisance ». Et donc, là encore, un symbole actif du Saint-Esprit, on voit bien un oiseau qui volette, mais il ne s'agit jamais d'incarnation, attention. Ce sont seulement des symboles pour nous conduire à croire que le Saint-Esprit agit, mais d'une manière invisible. Ce n'est pas exhaustif, puisque nous savons qu'il y a d'autres expressions qui désignent le Saint-Esprit avec des symboles. Par exemple, vous avez le souffle. Au moment de la résurrection, quand Jésus s'approche des disciples, alors qu'il est ressuscité le premier soir, qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit d'abord « La paix soit avec vous », et puis il souffle sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Et il dit justement « Recevez le Saint-Esprit ». Donc il y a bien une correspondance entre le souffle et la réception du Saint-Esprit. C'est une action encore. Jésus souffle. Et c'est ce qui a fini par donner le nom au Saint-Esprit, « Pneuma tu Christu », le souffle du Christ, « Pneuma tu Theou », le souffle de Dieu. Et on comprend très bien que c'est un des grands symboles. Donc, cette liste des symboles du Saint-Esprit au 694 et suivant, n'est pas exhaustive. De même, on pourrait ajouter l'aigle du Deutéronome. Nous souvenons que le Deutéronome dit que Dieu a aimé son peuple d'une manière très tendre et qu'il s'est engagé derrière lui jusqu'à le prendre comme un aigle prend ses petits. Je vous lis le passage, Deutéronome 32:11, tel un aigle qui veille sur son nid, plane au-dessus de ses petits, il déploie ses ailes et le prend, il le soutient sous son penage. Et donc c'est vraiment un beau symbole du Saint-Esprit qu'on pourrait retrouver d'ailleurs dans d'autres passages de l'Écriture, que ce soit donc l'Exode 19:4 ou tel passage des Proverbes ou l'Apocalypse 4:7 qui dit comme un aigle au plus haut de son vol, aitos. Et l'aigle est donc aussi un des grands symboles. On peut aussi voir dans l'Apocalypse on nous parle des quatre animaux, les quatre vivants. Comment ne pas voir derrière l'action du Saint-Esprit? Alors, certainement, l'aigle correspond bien à ce que nous venons d'évoquer à propos du Deutéronome, chapitre 32, et les trois autres figures, le lion, le taureau et le visage d'homme, correspondent mieux à la deuxième personne de la Trinité, puisque Jésus est né comme un véritable homme, Jésus est sacrifié comme un taureau, Hein, et le début de l'évangile de Luc, d'ailleurs, commence par le sacrifice dans le Benedictus, qui est évoqué dans le Benedictus par Zacharie. Eh bien, ce sacrifice, c'est le sacrifice du taureau, parce qu'on faisait, pour les grands prêtres, on faisait sacrifice du taureau. Et le taureau est donc un des quatre animaux, donc marque bien Jésus venu pour faire un sacrifice en rançon pour les péchés, dira Marc au chapitre 10. Et puis en dernier, eh bien le lion, parce que si Jésus s'endort comme un lion, comme un agneau le soir de sa Pâque après la crucifixion, il se réveille comme un lion rugissant, hein, comme dit saint Augustin. Donc vous voyez, tous ces symboles, ben, il faut évidemment les prendre à bon escient, car ils pourraient être compris dans une autre signification négative. Donc attention, un symbole n'est pas toujours quelque chose de positif. Le lion, c'est une image que prend saint Pierre pour dire que le diable rôde autour de nous comme un lion prêt à dévorer sa proie. Première épître de saint Pierre, ou l'eau de la mort. Voyez, tous ces symboles donc sont à double face. Et il faut faire attention que c'est le contexte qui permet de dire « là, c'est l'action du Saint-Esprit ». Et je reconnais du coup ce que Dieu donne, mais toujours d'une manière très distincte par rapport à la vérité de l'incarnation de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Ce qui est le plus important à comprendre dans tous ces symboles, eau, onction, feu, nuée, lumière, sceau, imposition des mains, doigt, colombe, soufflet, aigle.
Très bien, merci frère Edouard.
Un grand merci à toi.